Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible. On est ensemble toute la semaine, ça c'est la bonne nouvelle dans ce monde chelou et par ce temps pourri. Nous ici on fait lumière chaque jour entre 14h30 et 15h30 en cogitant, en secouant les neurones et les idées reçues. Et on adore vous écouter quand vous appelez le 3210 ou que vous nous laissez des messages sur nos réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Cette semaine il y en aura pour tous les goûts, mais aujourd'hui c'est lundi donc c'est philosophie. Le bien-être, l'épanouissement, la sérénité, l'état de grâce. Voilà ce à quoi nous aspirons tous et aujourd'hui plus que jamais. Mais le chemin le plus simple pour y parvenir est-il celui qui privilégie nos intérêts personnels? En voilà une question qui se pose chaque jour en ce moment. Autrement dit, faut-il être égoïste pour être heureux? Un peu, beaucoup ou pas du tout? À qui devons-nous être loyaux? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Hélène Leuillet.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'université Paris-Sorbonne et psychanalyste, auteur d'un livre que j'ai adoré, L'éloge du retard. En ce moment, on se pose pas trop de questions. Enfin, si, on se pose une question à partir de 17h30 aux éditions Albin Michel. Une réaction à cette réponse du général de Gaulle?
Oui, êtes-vous heureux? Je vous pense prenez que pour c'est une réponse très sage pour quelqu'un qui est au pouvoir et qui fait de la politique. Je pense que dans ces cas-là, il faut pas trop aspirer au bonheur. Il vaut mieux, au moins temporairement, tant qu'on est aux affaires, avoir laissé ça de côté.
Est-ce que c'est immoral de penser à soi pour construire son bonheur?
Non, pas du tout, mais c'est un effort. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle soi. Évidemment, il y a toujours beaucoup d'ambiguïté.
Que de penser à son bonheur.
Voilà, si c'est les intérêts personnels et que du coup le bonheur est quelque chose d'un peu replié sur soi, d'un peu pauvre, ben, c'est un bonheur très triste et très pauvre.
Donc, un bonheur essentiel?
Le bonheur essentiel, il me semble, oui, que ça demande un effort de s'intéresser à soi, de savoir ce qui est important pour soi et de le tenir. D'ailleurs, si on ne fait pas ça, eh bien, on impute aux autres la charge de son malheur, ce qui est aussi un grand problème des familles, des couples, des entourages, que de rendre responsables les autres. Voyez, je me suis dévouée, je me suis sacrifiée à vous et je suis malheureux, malheureuse. Eh bien, je pense qu'il faut parfois avoir le courage de son propre désir, savoir se faire passer en premier pour ne pas justement se sacrifier. Ça, c'est très important. Mais c'est du soi ouvert qu'il s'agit, pas du soi replié entre quatre murs qui ne prend aucun risque et qui, là, vit un bonheur très pauvre, qui est une sorte de confort, en fait. Mais le confort, c'est pas le bonheur.
À vos côtés, Gilles Verviche, qui est philosophe. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Il vous va très bien ce petit masque jaune.
Oui.
Il a un petit côté, je sais pas.
Canard.
Un peu canard. Est-ce que vous faites votre canard, vous? Faire son canard, c'est une expression, vous savez, en amour aujourd'hui, quand on fait son canard, ce sont les jeunes qui disent ça, tu fais ton canard, veut dire t'es un petit peu à la merci de la personne aimée, faire son canard. Ça vous va très bien en tout cas.
Merci.
Merci d'être avec nous.
De
votre
rien.
Livre, Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi, c'est une question que l'on se pose chaque jour.
Oui,
en
pas
ce moment.
Que dimanche, confinement, couvre-feu. C'est dimanche tous les jours.
C'est aux éditions Flammarion.
Oui.
C'est une question d'actualité en ce moment. Hein. Est-ce qu'il faut se privilégier au détriment des autres? C'est une question qu'on se pose. Nos intérêts personnels. On est dans l'adversité en ce moment et on mène un combat tous ensemble et en même temps on mène un combat très très personnel.
Ouais, moi j'aime beaucoup votre question. J'aime beaucoup votre question.
J'apprécierais votre réponse.
Oui, alors parce que à l'heure actuelle où les interactions sociales sont assez difficiles, effectivement, on est quasiment contraint en fait à se replier sur soi, même si on n'a pas envie. On en parlait un peu hors antenne quand on a passé la journée à faire des visioconférences, même faire des zooms apéro qui étaient à la mode au premier confinement, on n'a plus forcément envie. Donc il faut peut-être retrouver un certain plaisir de se retrouver un peu avec soi-même. Après, ça ne veut pas forcément dire être égoïste. Hein.
Oui, mais là, on est dans l'adversité. On est en train de se battre.
Voilà.
On assiste à des grands mouvements de notre société. On est dans une épreuve que nous traversons tous. Et en même temps, vaccin pour les anciens, vaccin pour les jeunes. Enfin, on a l'impression que chacun doit sauver sa peau et qu'en même temps, il va falloir sauver un peu aussi toute l'humanité.
On a un peu tendance.
C'est difficile,
je trouve. On a un peu l'impression qu'on oppose. le discours les vieux avec les jeunes, là, c'est un peu dur.
Bah, on est dans des divisions en ce moment.
Certains, on a l'impression, on parlait de sacrifice tout à l'heure, mais on a un peu l'impression de sacrifier les jeunes pour les vieux, par exemple. Et ça a tendance à opposer tout le monde plutôt que de voir un grand mouvement un peu solidaire, quoi.
Mais là, ça n'est pas de bonheur qu'il s'agit. Hein, c'est d'une forme de survie. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va accueillir Alizée. Elle a 29 ans. Elle a une vision sur le sujet. Elle pense qu'il faut être quand même un petit peu égoïste. Et puis Dominique, elle est un petit peu plus âgée. Dominique, elle pense le contraire. Donc on va justement faire une thèse, une synthèse, une antithèse. On va y revenir avec vous dans un instant. Nous sommes en direct jusqu'à 15h30 sur l'antenne d'RTL. Je vous attends.
Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 en compagnie d'Hélène Leuillet, qui est maître de conférence en philosophie, et Gilles Verviche, qui est philosophe. Et on s'interroge aujourd'hui, faut-il savoir être égoïste? Puisque vous le disiez, Hélène Leuillet, c'est une question de courage, c'est une question d'engagement aussi. Engagement vis-à-vis de qui? Surtout vis-à-vis de soi-même avant tout. Mais c'est un apprentissage, hein, parce que effectivement, pour certains, il peut paraître immoral de penser à soi avant de penser aux autres. On va accueillir, si vous le voulez bien, tout de suite Alizée. Elle a 29 ans. Bonjour Alizée.
Bonjour Flavie.
Bienvenue sur RTL, Alizée. Merci d'être avec nous. Vous avez donc 29 ans, vous habitez à Metz. Quel est votre point de vue sur le sujet, Alizée?
Bah, je pense que pour être heureux, oui, il faut avoir une part d'égoïsme. Après, c'est... comme je disais à Vincent, enfin, je pense que chacun a sa notion et sa vision du mot bonheur.
Alors du mot bonheur et du mot égoïsme. Qu'est-ce que l'égoïsme?
Tout à fait.
Quelle est la définition de l'égoïsme? Juliane nous écrit: penser à soi, est-ce vraiment de l'égoïsme? Pas pour moi. En revanche, ne pas partager les et les autres, oui. Et le bonheur, c'est quand même aussi des relations harmonieuses et enrichissantes avec son prochain.
Parce qu'on peut en effet être égoïste pour réussir quelque chose dans sa vie personnelle ou professionnelle, mais sans pour autant être égoïste au point d'écraser les autres. Vous voyez?
Oui, mais je vois très bien.
C'est là où la notion d'égoïsme varie en fonction du tempérament et du caractère de chacun, je pense.
C'est quoi la définition de l'égoïsme, Gilles Verviche? Parce que c'est un mot moche.
Non, mais alors j'étais en train d'y penser. Bah, égo, jeu, hein.
Ouais,
donc c'est
ouais,
tout rapporté
merci.
À soi.
Ouais.
Bon, je reviendrai
non,
la semaine prochaine.
Non, mais c'est tout rapporté à soi. Ouais.
Alors, c'est le souci de l'intérêt personnel, mais je pensais justement à une distinction que fait Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité entre amour propre et amour de soi. Voilà. Où il dit que l'égoïsme n'est pas forcément de l'égocentrisme. L'amour de soi, c'est le souci naturel que chacun peut avoir de son intérêt personnel, de sa propre conservation, donc pourquoi pas de son bonheur. Et il dit ce qui exclut pas l'amour de soi, d'avoir aussi de la pitié, de la compassion, de la sympathie. C'est pas parce qu'on est soucieux de son intérêt personnel qu'on exclut les autres. En revanche, l'amour propre, il le dénonce ça comme étant ce qu'il appelle une passion artificielle, très sociale, où on se compare avec les autres, où on se jalouse, et où là, on est plutôt à vouloir écraser les autres, comme disait Alizée. Voilà. Donc, effectivement, il y a différentes formes d'égoïsme. Il y en a un qui exclut pas forcément les autres. On va pas non plus, effectivement, être dans l'abnégation tout le temps parce qu'on n'est pas égoïste.
Mais pourtant, je disais que c'est un mot moche, non pas par sa sonorité, mais par sa réputation, je dirais, Hélène Leuillet.
Oui, tout à fait. C'est pourquoi, la question est un petit peu provocatrice. Et je trouve que la distinction de Rousseau est très belle et très éclairante. On peut ajouter, je trouve que c'est la recoupe, hein, en certains points, la distinction en psychanalyse entre le moi, hein, qui est plutôt l'amour propre, hein, c'est-à-dire le narcissisme en quelque sorte, celui qui veut écraser les autres, comme disait Alizée, et puis au contraire le sujet qui suppose une attention aussi à l'inconscient en soi, c'est-à-dire à ces choses qui nous échappent un petit peu en nous-mêmes, mais qu'il est justement essentiel, pas d'essentiel et du non-essentiel, qu'il est essentiel de respecter, auquel il faut faire attention, parce que la valeur qu'on donne à sa vie, elle est là, et ce qui nous rend aussi généreux, ouverts aux autres, capables de donner aux autres, c'est précisément cette attention à nous, en tant qu'on est un sujet. C'est vrai que les soucis du moi, en revanche, sont plutôt de l'ordre de l'amour propre, du narcissisme, et même éventuellement de l'individualisme. Tandis que l'attention à sa propre subjectivité, d'abord c'est un travail de savoir un petit peu ce qui compte pour nous. C'est pas du tout évident, hein, quand on vous demande quel est votre désir. Oh ben, je sais pas, etc. Hein. Et c'est un travail de faire attention à notre désir, et c'est ça qui nous rend capable d'être heureux avec les autres.
Alizé, vous le disiez il y a un instant, voilà, par exemple, pour un projet professionnel, on est obligé d'avancer aussi pour soi, sans écraser les autres. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut accéder à son épanouissement, à son bonheur, sans jamais, jamais, jamais faire de mal? Parce qu'il y a une différence entre faire du mal de fait et inconsciemment, et puis le fait de vouloir, à un moment donné, justement, appuyer sur la tête de l'autre. Mais parfois, on avance et il y a forcément des dégâts. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut avancer dans la vie et s'épanouir sans dommages collatéraux?
Après, ça dit, j'en reviens au fait que c'est encore une fois un état d'esprit, une façon d'être, une façon d'avoir des valeurs, des principes, et oui... Au travail, forcément, dans un milieu professionnel, il y a de la concurrence. Mais après, enfin, moi, j'ai toujours fait des entretiens en me disant que j'étais en concurrence face à moi-même. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis jamais dit, ah, il faut que j'écrase telle personne ou parce qu'il faut à tout prix que j'arrive. Non, j'étais exigeante uniquement envers moi-même.
Et dites-moi, Alizé, dans des sujets plus sentimentaux, mais alors je parle du sentiment, je parle de la famille, je parle de l'amour, je parle vraiment du sentiment en règle générale, est-ce que ça n'est pas plus difficile, justement, quand il y a affect?
Mais après, il y a une citation d'Oscar Wilde, enfin, si je peux me permettre de la citer, à un moment donné, il dit « S'aimer soi-même, c'est se lancer dans une histoire, enfin, dans une belle histoire d'amour qui durera toute la vie. »
Ouais.
Donc après, enfin voilà, cette citation, je la trouve très belle parce que oui, que ça soit en famille ou avec les amis, forcément, à un moment donné, on donne et certaines personnes aiment donner et recevoir.
Il a pas tort.
Il faut pas que ça soit uniquement à sens unique et c'est ce qui peut rendre une personne heureuse.
Il a pas tort, Oscar Wilde. Mon cher Gilles Verviche.
Il a jamais tort, Oscar Wilde. Hein. J'aime beaucoup à chaque fois ses formules quand il dit j'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai quelques compétences.
Quelque chose à dire,
par
ouais.
exemple. Quand vous parliez d'affect, je trouvais ça aussi évidemment intéressant. Ça me faisait penser à la morale stoïcienne, à laquelle on a pu reprocher d'être un peu égoïste, puisque c'est une morale qui, pour ne pas souffrir, prône un peu l'indifférence. Alors l'indifférence à tout ce que je peux perdre ou gagner, y compris les êtres chers d'ailleurs. Donc du coup, ils apprennent à l'homme à ne pas s'attacher, ce qu'on retrouve dans les morales, y compris chez Yoda dans Star Wars, apprend à laisser partir tout ce que tu aimes et donc à pas tellement l'aimer, à pas t'attacher aux choses. Donc chez les stoïciens, il y a l'idée que le secret du bonheur, ce serait effectivement d'être indifférent, ce qu'on retrouve dans le zen détaché, et donc on a pu reprocher à cette morale d'être égoïste. Voilà, et on leur a dit oui, mais alors faut pas s'occuper de ses amis, faut pas. Il dit le meilleur exemple que la meilleure chose que tu puisses apporter à tes amis, c'est le modèle d'une vie heureuse, et donc ils vont chercher à t'imiter, mais faut pas forcément aider les autres, être dans le sacrifice, etc. Donc voilà une morale un peu égoïste.
On va se retrouver dans un instant parce que Hélène Leuillet a fait. Comme ça, parce qu'elle avait un truc à dire et à rajouter. Alizé, on vous garde. Dominique, on la remercie pour sa patience. Elle va intervenir dans un instant. À tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous sur RTL. Hélène nous écrit « L'égoïsme est l'antithèse du bonheur, c'est nier les autres. Nous avons bien sûr besoin des autres pour nous épanouir. Gagner 10 millions d'euros et ne les garder que pour soi ne rendra pas très heureux. C'est le partage, l'amour, l'amitié qui font le sel de l'existence. Au final, avec quoi partirons-nous à la fin de notre vie ?» Déjà, on va partir tout seul. Non mais,
on meurt seul.
Non mais,
tu l'emporteras pas.
Là, je me tourne vers nos deux amis philosophes. On va partir tout seul. Donc, quand on est tout seul, on est face à sa morale, face à sa conscience. Non. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, Gilles Verviche.
Oui, non, je voulais sans monopoliser la parole, mais ce lien entre morale et bonheur justement qui est interrogé, parce que on a l'habitude de lier les deux. C'est vrai, moi j'aime bien le côté provocateur de la question. Faut-il être égoïste? Parce qu'aujourd'hui, la mode du développement personnel, c'est tellement pour être heureux, il faut être quelqu'un de bien, il faut être altruiste, il faut bien être avec soi, avec les autres, et se rendre compte. La réponse, elle est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de lien entre morale et bonheur. Voilà. Donc, il n'y a pas à être moral ou immoral. La recherche du bonheur, elle est amorale. Et il n'y a pas forcément de lien entre être égoïste ou pas. Celui qui est égoïste, il sera heureux en étant égoïste. Hein. Enfin, je veux dire, voilà.
Alors, Hélène Leuillet, après on accueille Dominique.
Il est vrai, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le bonheur suppose une forme d'agressivité. Et on a du mal, justement, dans le développement personnel, on a du mal à l'admettre parce qu'on voudrait être absolument proche de la sainteté, de n'être que bon, etc. Alors que, effectivement, si vous passez un concours, et qu'il y a une place pour les deux personnes. Eh ben, si je dis « Oh mais allez-y, passez devant moi !» et que ainsi je mets ma vie en péril, mais je manque à mon devoir à l'égard de moi-même.
C'est-à-dire c'est qu'à ça. Moment, c'est pour ça que je parlais de loyauté.
Une agressivité. Et en amour, c'est pareil. Si je dis « Ah ben je convoite telle personne, mais au fond telle personne la convoite aussi, alors je laisse tomber », je ne rends service à personne. Pas seulement je ne rends pas service à moi-même, mais je rends service à personne.
Alors, on ouvrira le chapitre de l'amour avec des messages de Sarah et de Damien qui, effectivement, illustrent parfois les quatre consciences qu'on va évoquer et qui peuvent nous traverser quand il s'agit de morale et d'égoïsme. Dominique est en ligne avec nous. Alizée, vous êtes toujours là. Dominique, elle est un petit peu plus âgée que vous. Bon, est-ce à dire qu'elle a plus d'expérience ? On peut l'imaginer et on va lui demander son point de vue sur la question. Bonjour Dominique.
Bonjour Flavie, bonjour à tous vos invités.
Je suis contente de vous entendre. Vous habitez à Amboise, vous avez 65 ans. Et pour vous, non, il ne faut pas être égoïste pour être heureux. Alors, on va développer.
Non, on va essayer de développer. Bon, bien qu'il faudrait plus d'une émission pour répondre à tout ça.
On va appeler les grosses têtes. On va leur dire aux grosses têtes. On va dire qu'on est ensemble jusqu'à 18h. Ouais.
Mais je pense que... C'est normal que j'entende des échos sur mon téléphone.
Bah, en fait, tout ce que vous dites est tellement passionnant qu'à un moment donné, vous le dites deux fois.
Bien sûr. Oui, donc, je pense que pour illustrer mon propos, je vais essayer de faire un petit exemple. Quand vous envisagez de faire un cadeau à quelqu'un, je pense que le meilleur moment, c'est quand on pense à l'autre, quand on fait des démarches, des recherches, qu'on prépare l'emballage. C'est un bonheur, mais indicible. Alors que quand l'autre ouvre son cadeau, lui, bien sûr, il a un plaisir, mais ça n'est que du plaisir. Le bonheur qu'on a mis à préparer pour faire plaisir à l'autre n'est jamais égalé dans le plaisir que l'autre ouvre.
Mais est-ce que ça s'applique, alors là-dessus je vous rejoins, mais est-ce que ça s'applique à tous les pans de l'existence, Dominique ?
À tous les pans de l'existence, ça peut être dangereux. Parce que, évidemment, tout à l'heure, j'entendais parler de professionnels. Là, on est dans un monde où, ben, si on laisse passer sa place, si on laisse l'autre prendre sa place, eh ben, on n'avance pas. D'un point de vue amoureux, je pense que quand on arrive à être assez égoïste envers soi-même, on libère l'autre. C'est-à-dire que notre bonheur ne dépend plus de l'autre.
Oui, je suis d'accord.
Et là, on accède à autre chose. Donc, on ne peut pas être heureux, vivre du bonheur, je ne sais pas quel terme employer, si on est égoïste. Imaginez une personne qui soit dans le repli constant d'elle-même, qui ne pense à satisfaire qu'elle-même, qui ne vit que dans la petitesse d'elle-même. Mais c'est d'une tristesse absolue. C'est une vie qui ne sert à rien. Enfin, à mes yeux.
J'entends.
C'est une vie qui ne sert à rien. Et on était tout à l'heure dans les citations. C'est dommage parce que je n'ai pas retrouvé les mots exacts. Il y avait un proverbe qui disait « On doit oublier ce qu'on donne. Et quand on reçoit, on ne doit jamais l'oublier. » Ou à peu près quelque chose comme ça. Mmh. Et en fait, si on appliquait tous ça, si nous étions tous capables, mais nous ne sommes pas des saints, d'appliquer ça, on aurait tous un bonheur infini à offrir, mais on n'oublierait jamais celui qui nous a donné quelque chose. Et là, il y aurait un équilibre des forces, ça se ferait tout seul. Mais malheureusement, c'est de l'utopie. On n'est pas... on essaie... Enfin, moi, j'essaie d'appliquer ça, mais c'est très difficile. Mais vivre dans l'égoïsme, non, c'est impossible. On ne peut pas être heureux et égoïste. Ce sont des mots qui ne vont pas ensemble. Ce n'est pas possible.
Enfin, alors, est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire passer avant quelqu'un, parce que votre bonheur primait et que vous saviez qu'à un moment donné, c'était cette personne-là ou vous ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes passé avant ou vous vous êtes effacé pour le bonheur de l'autre ?
J'ai vécu les deux. J'ai eu la chance d'être très vieille. Et c'est une chance d'avoir pu vivre les deux. Et j'ai renoncé, par exemple, à quelqu'un que j'aimais passionnément parce que je me suis effacée. Et des années après, je l'ai regretté. C'était l'objet d'une autre émission, ça les regrette. Et puis, les années ont passé. Et après, je ne suis pas tombée dans la caricature de Maria Pacôme dans la crise, mais presque.
Ça m'intéresse, ouais.
Mais oui, en disant, mais j'ai le droit. de, et ça n'empêchera pas que ceux que j'aime, je les aimerai toujours, ça n'empêchera pas d'être là, de répondre présent.
Voilà.
Mais, j'existe, j'ai le droit de vivre mes bonheurs.
Et voilà. Merde, comme disait Maria Pacoum dans le film, je ne sais plus comment elle s'exprime, mais c'est tellement génial. On en parlera mercredi, justement. Dominique, vous voulez bien rester avec nous, parce que dans un instant, je vais vous lire des messages de Sarah et Damien qui sont très clairs sur des situations amoureuses un peu complexes. Alizé, merci beaucoup. C'était super intéressant d'échanger avec vous. En fait, vous rejoignez Dominique, hein, vous êtes à peu près sur la même vision des choses, hein, si je puis dire. Et c'était hyper intéressant de parler avec vous, Alizé. Prenez bien soin de vous. On va faire un tour par l'information. Je vous embrasse, Dominique. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Olivier Bois vient de rentrer dans ce studio.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Tiens, comme on est en direct, je vais m'adresser à François, notre technicien réalisateur. Si tu pouvais nous retrouver un extrait de la crise, ce serait absolument génial. Si c'est possible, évidemment, avant d'accueillir Marie-Jo sur cette antenne qui vient de nous confier qu'elle a vécu ça, mais plein pot. Bref, faut-il être égoïste pour être heureux? On en parle aujourd'hui donc avec Hélène Leuillet, Gilles Verviche, maître de conférence en philosophie. Pour Hélène, Gilles Verviche qui est philosophe. Bref, c'est le lundi philo. Et cette question jusqu'à 15h30 que l'on traite également avec Dominique qui est en ligne avec nous. Alors, des questions concrètes, parce que, hein, allons-y, hein, la philo, c'est aussi quelque part parler de choses concrètes de la vie. Sarah, la réponse pour moi en amour, c'est oui. Il y a 8 ans, je suis tombée amoureuse d'un collègue qui était marié. Sa femme attendait un enfant. La situation était bien sûr très difficile, mais si je n'avais pas pensé à moi, je ne serais pas aujourd'hui l'épouse de cet homme. Nous avons 2 merveilleux enfants et nous sommes très heureux ensemble. Alors, autre message de Damien. J'ai été égoïste en amour. J'ai volé, entre guillemets, la copine d'un bon ami. Notre amitié est morte ce jour-là, ça a été très compliqué à vivre. J'ai beaucoup culpabilisé, j'ai somatisé en sachant le mal que je lui faisais. Mais j'étais fou amoureux, impossible d'agir autrement. 6 ans plus tard, nous allons nous marier. Je pense qu'on peut être égoïste sans être cynique et surtout que le bonheur n'attend pas. Dominique. Voilà des cas de conscience. Alors, vous nous avez expliqué que vous êtes passé vous-même par des grandes questions, que vous avez renoncé à un amour et que vous l'avez finalement regretté quelques temps plus tard. Voilà des cas de conscience terribles. À qui doit-on être loyal ? À notre amour, à nous-mêmes, parce qu'on sait que notre bonheur en dépend, ou faut-il à un moment donné s'effacer au nom d'une certaine morale ?
Alors, vous savez, ce qui ressort de tout ce qu'on a pu entendre, c'est que la moralité et le bonheur, ça allait rarement de pair.
Mais ouais.
Eh ben ouais, c'est comme ça. Et puis pour avoir écouté, ben voilà. Et pour avoir observé, écouté certains autour de moi, j'ai notamment une de mes proches qui a, au nom de la moralité, n'a pas fait rester la femme d'un seul homme, etc., etc., etc. Et ben c'est merveilleux. On va lui dédier un monument. Mais elle a été malheureuse toute sa vie. Voilà. Donc à un moment donné. Eh bien, il faut avoir sa juste dose d'égoïsme. Moi, je sais que maintenant, malgré l'âge que j'ai, si j'étais malheureuse, je remettrais tout en question. J'oserais, j'aurais le courage. Parce que, ben, comme disait la fille de Maria Pacoum, et merde. Voilà. Et oui. Par contre, j'ai retenu le terme cynique.
Ouais.
Dans le témoignage précédent. Alors, effectivement, de là à se réjouir de faire du mal, là, on est dans autre chose.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Et savoir se rendre heureux sans se réjouir du mal qu'on peut éventuellement faire à l'autre. Mais je ne sais pas si on peut vraiment avancer dans la vie en prétendant ne jamais avoir fait de mal à quelqu'un. Voilà, je ne pense pas que ce soit possible. La quête du bonheur, c'est un travail de chaque jour. C'est chaque jour se réjouir de choses auxquelles on n'aurait peut-être même pas pensé avant. Enfin, voilà, c'est un travail.
Et c'est un message qu'on a reçu de Monique. Je n'arrive pas à être égoïste et quand j'essaie de l'être, on me le reproche. C'est difficile de trouver un juste équilibre. J'allais en revenir au regard des autres. C'est-à-dire, effectivement, vous parliez d'une femme à qui on pourrait dédier des statues, ériger des statues en hommage à sa moralité, à sa fidélité. Et pourtant qu'elle était malheureuse. Le regard des autres, lorsque l'on s'empare de son bonheur, c'est sûrement une entrave, je dirais, à cette forme d'égoïsme, Dominique.
Bien sûr, mais c'est aussi ce qui empêche, pour coller à l'actualité, mais c'est pas le sujet du jour, de parfois révéler des secrets de famille ou des choses comme ça, parce qu'on sait qu'on va faire du mal. Bien sûr, mais on va faire du mal pour soi-même trouver notre propre équilibre. Évidemment. Ça n'a pas de prix.
Ouais.
Ça n'a pas de prix.
Les secrets de famille, on en parlera lundi sur RTL. Oui.
Mais ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que le bonheur, ça passe aussi par ces petits moments douloureux. Mais après, je trouve que c'est un cadeau qu'on fait aux autres de les alléger de ce devoir qu'ils ont de nous rendre heureux. Voilà. On a.
Eh ben dites donc, il y a Gilles Verviche qui vous écoute. 20 sur 20, hein, Dominique. Hein. Gilles Verviche.
Non, il y a plein de choses, c'est très intéressant. Après, vous connaissez évidemment le proverbe, je préfère avoir des remords que des regrets. On a l'impression d'être un peu dans ce choix-là. Quoi. Le remords, c'est avoir fait quelque chose de mal, sans mordre les doigts, la culpabilité éventuellement qui va me ronger et donc va me rendre malheureux parce que j'ai fait passer mon intérêt avant. Et puis le regret, à l'inverse, c'est peut-être avoir laissé filer mon intérêt, mon bien-être, pas forcément mon bonheur, pour l'avoir laissé à quelqu'un d'autre. Voilà, donc le choix est entre les deux. Après, j'ai envie de dire, et du coup je vais le dire, après ça peut rendre heureux de se soucier des autres, quoi. Voilà, ça dépend de la psychologie, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément en étant égoïste non plus qu'on va être heureux, il faut pas forcément l'être si
non, ça s'applique
j'ai plutôt
pas comme
une
ça.
Personnalité qui trouve son bonheur dans le fait de rendre les gens heureux. Dans une série, c'était 10%, je crois, il disait, le personnage principal dit à la fin, j'ai arrêté de penser qu'à moi, c'est très reposant. Voilà, ça peut rendre aussi heureux de se soucier un peu plus des autres et moins de soi-même.
On va se retrouver dans un instant. Pas de bol, c'est pour vous, Hélène Leuillet. mais, d'abord, François nous a retrouvé un extrait de La Crise, ce sera juste après. On l'écoutera. Dominique, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous, parce que à chaque fois, c'est passionnant. Donc, je me permet de vous embrasser.
Merci beaucoup.
Et c'était bon de parler avec vous. Prenez bien soin de vous, Dominique.
Merci
à vous.
Beaucoup. Bonne fin d'émission.
Au revoir. Dans un instant, c'est Marie-Jo qui va arriver. La crise et puis tous vos messages, évidemment. Et on va aider Monique à être un peu plus égoïste, peut-être. À tout de suite.
RTL. Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL.
Alors, Hélène Leuillet, vous vouliez rajouter quelque chose au propos de Gilles Verviche ?
Oui, alors moi, enfin, par rapport à tout ce qu'on a entendu et qui est tout à fait passionnant, et ce que disait Gilles aussi, qui est très passionnant, c'est que je crois qu'il faut distinguer peut-être plusieurs types de rapports aux autres dans notre bonheur. C'est-à-dire que si effectivement, les autres, c'est des demandes auxquelles on n'arrive pas à se soustraire, jusque, comme je le disais tout à l'heure, au sacrifice, mais le problème, c'est que sur le moment, on s'en rend pas compte, on répond aux demandes, on s'oublie soi-même. C'est très classique, les gens qui s'effacent, qui s'oublient, etc. Ou bien, si le rapport aux autres, c'est un rapport de domination et d'emprise. Là aussi, on s'oublie soi-même, et le salut, il est de redécouvrir un peu d'égoïsme, quitte à ce que ça fasse mal, parce que les gens qui se sont beaucoup oubliés eux-mêmes, qui ont été beaucoup sous emprise, ils doivent faire un effort pour redevenir égoïstes.
C'est difficile.
Voilà, pour retrouver leur propre vie, ça s'apprend. Ou bien, si le rapport aux autres, et comme disait Dominique tout à l'heure, eh bien, un rapport d'enrichissement mutuel, le fait que, comme on disait aussi tout à l'heure, nous sommes des êtres ouverts, on ne peut pas être heureux tout seul, sauf peut-être dans le stoïcisme, quoique sur l'interprétation du stoïcisme, on peut en discuter, je ne suis pas sûre d'être complètement d'accord, parce que Marc Aurèle aussi, par exemple, est très ouvert aux autres, et il dit surtout ce qui est important, c'est d'entretenir sa flamme intérieure, et le stoïcisme nous permet de découvrir aussi nos ressources intérieures, notre capacité à rester à peu près tranquille quand tout est douloureux autour de soi, et bien de rester quand même un petit peu attentif à soi et donc aussi calme que possible. C'est-à-dire que le bonheur, il est aussi dans la faculté d'être un peu apaisé avec soi-même, ce qui n'est pas forcément facile quand les événements sont difficiles. Mais le stoïcisme nous apprend contre vents et marées, hein, c'est l'image du promontoire, contre vents et marées, à rester à peu près arrimé à ce qui est important et à rester à peu près calme, même quand tout va mal.
Victor demande, il nous parle de son compagnon qui est aidant familial, donc qui s'occupe de quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Et Victor s'interroge, peut-on quitter une personne en pleine détresse ?
Je pense que Moi, je vis un peu la même chose dans ma famille, hein, où l'aidant finit par tellement s'oublier lui-même, en l'occurrence elle-même, qu'on perd le goût à peu près à tout. C'est-à-dire que là, littéralement, en se sacrifiant pour l'autre, on finit par se sacrifier, enfin se tuer soi-même. Donc, parfois, il faut avoir le courage de passer le relais, peut-être. Enfin, voilà, je pense que c'est pas non plus
pour les aidants. Victor, lui, c'est son compagnon qui est aidant, et Victor se dit. Est-ce que je peux quitter mon compagnon qui vit actuellement une période de détresse? Est-ce qu'on peut, à un moment donné aussi, faire des choix dans la vie?
Oui.
Est-ce que ce ne sont pas des situations... Oui, là, on est dans un conflit de loyauté terrible.
On est vraiment au cœur du sujet, mais il faut voir que aider les autres, on croit toujours que c'est en faire plus, et parfois, c'est en faire moins. C'est-à-dire qu'on se donne parfois beaucoup de mal, et plus on se donne du mal, et plus le cercle s'enferme, et plus il y en a un qui va mal et qui a besoin de l'autre pour aller mieux, mais il entraîne l'autre aussi dans son marasme, etc. Mmh. C'est-à-dire que parfois, rendre service à l'autre, c'est couper aussi. C'est et lui permettre de retrouver justement ses ressources intérieures que le stoïcisme nous enseigne et bien d'autres mouvements de pensée et qu'on a en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi une vitalité en nous-mêmes et que parfois, quand on compte trop sur les autres, je pense que ça nous est tous arrivé, vous savez, lequel d'entre nous en voyage n'a pas suivi un qui a plus le sens de l'orientation et resté passif. On aime bien
de
temps en temps...
Combien de fois on a pris l'autre pour un GPS, quoi ?
Voilà. Alors, on aime bien se faire prendre en charge.
Parce qu'on est perdu.
Voilà, exactement. Ou bien qu'on n'a pas d'initiative. Alors voilà, il faut casser parfois ces cercles-là où on se repose sur l'autre, où il y en a un autre qui se repose un peu sur nous, d'interdépendance, et que parfois aider l'autre, c'est lui permettre de retrouver sa ressource intérieure. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire le laisser tomber, le mettre à la rue en disant voilà, je te rends service. Il y a manière et manière, bien sûr, mais il y a parfois des cercles pathologiques qu'il faut interrompre, oui, qu'il faut briser. Oui.
C'est lui met la pression en fait au compagnon là. Il se retrouve à devoir gérer les deux, l'aide qu'il apporte et sa relation, et du coup il doit vivre mal le tiraillement entre les deux. Donc peut-être ça l'allégerait pour un temps.
Alors on accueille Marie-Jo sur cette antenne. Bonjour Marie-Jo.
Bonjour Flavie.
Et dites donc, c'est vrai que vous avez fait la scène de la crise, vous?
Ah moi oui. Moi ça fait un petit moment déjà, oui.
Et un jour vous avez décidé d'être égoïste.
Voilà, j'ai décidé d'être égoïste un petit peu, pas forcément par la force des choses, mais c'est vrai qu'à force de toujours donner et puis de pas recevoir beaucoup, de me trouver dans des situations un peu paradoxales, je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, il faut penser un peu à moi. Parce que tout à l'heure, vous disiez, il y a quelqu'un qui a fait un rapport avec une personne qui disait, oui, j'ai arrêté de penser à moi, je pense aux autres, ça me repose. Ben, l'inverse, c'est vrai aussi, je peux vous le dire.
Alors, on va se retrouver dans un instant. Je vous remercie pour votre patience, Marie-Jo. On a un cadeau pour vous. Ce sera un extrait, justement, de Maria Paco. Vous nous direz si vraiment vous avez fait comme elle. Parce que alors ça en fait rêver tellement de pouvoir un jour dire ça. On se retrouve tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Allez, on se fait plaisir. Grâce à François Touchard, notre technicien réalisateur, voici un pétage de câble qui en inspire beaucoup.
J'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement...
Écoute, Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre.
Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes.
Je te dis encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père.
Eh ben voilà, Maria Pacom. Vous l'avez fait ça, Marie-Jo? Vous avez dit, j'en ai rien à foutre.
Je l'ai pas dit ouvertement, mais j'ai fait comprendre, oui, que au bout d'un moment, voilà, il y a...
C'est intéressant, hein, cette idée du retour.
La mère, vous avez raison. Elle avait fini, elle était partie, elle était rentrée chez elle, quoi.
Et ça a changé beaucoup de choses pour vous?
Alors pour moi ça a changé beaucoup de choses, oui, ça fait que maintenant je suis en accord avec moi-même, quoi. Voilà, je me fais plus, je me dis plus mais pourquoi t'as fait ça, mais pourquoi t'avais pas envie de le faire et pourquoi tu l'as fait, machin truc. Ben, je dis non, voilà. Alors des fois je mens un petit peu, je donne pas les bonnes raisons, mais je dis non quand j'ai pas envie.
Ah voilà, oui, mais moi, je suis d'accord avec vous, en fait, parce que c'est vrai, Marie-Jo, c'est un soulagement. Et là, je me dis, en fait, le fondement vraiment de notre épanouissement et notre bonheur, c'est la liberté.
Oui, voilà, c'est ça. Puis c'est pas non plus. Et puis, je vous dis, moi, j'ai beaucoup donné. Quand j'étais jeune, j'étais assez altruiste. Je suis toujours, mais je donnais sans compter. Et puis, au bout d'un moment, souvent, ben, on s'aperçoit que, en fait, les gens, ils attendent que vous. Que t'as tellement l'habitude de donner qu'ils attendent que ça, que vous donniez. Bon, ben oui et non. Oui, à un moment, on peut donner. Puis, à d'autres moments, on peut pas donner. Puis, quand on donne plus, ben, les gens disent, ah bon, mais pourquoi? Bon, ben comme ça, du coup, je donne plus du tout. Et comme ça, et plus les questions, les gens se posent plus de questions. Ils savent que je donne plus. Voilà.
C'est vrai, c'est très juste.
Hélène Leyer.
Oui, c'est très juste. C'est-à-dire qu'on J'attends. Croit toujours que quand on donne, on va entrer dans une logique de don contre don et on va recevoir que c'est un bon investissement.
Sans l'exiger pour autant, mais c'est voilà. il y a des allées, des retours, ça circule. Quoi.
Exactement. Mais bien souvent, ça crée au contraire, c'est l'expérience de Marie-Jo, une sorte de répartition des rôles. Il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Et là, à ce moment, on dit, il y a mal donne. Et effectivement, pour être heureux, d'ailleurs, bon, ce qu'on entend par bonheur, ça, jamais quelque chose de continu. Hein, on est bien d'accord que c'est des moments, mais c'est des moments qui supposent qu'on soit capable de dire non. Et c'est aussi comme ça, d'ailleurs, qu'on résiste aux tentatives des autres de nous sadiser ou de nous mettre sous grande prise ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que le bonheur, c'est quand même toujours un pari. Le pari, j'ai bien aimé cette expression que vous avez eue, Marie-Jo, dire « en accord avec soi-même ». C'est le pari d'être en accord avec soi-même. Et là, quelque chose comme « advienne que pourra ». Là, je sais que j'ai pris pour moi la juste décision, advienne que pourra, et c'est un pari.
Voilà. Et c'est intéressant quand vous parlez de rôle, mais c'est vrai que Marie-Jo, la vie parfois c'est un théâtre, et chacun a son rôle dans des relations sociales bien déterminées, et le jour où on décide de ne pas donner la répartie, et de ne pas donner la réplique qu'on attend de nous, ah ben alors là tout s'écroule et plus
tout
personne ne comprend. Oui, exactement. Mmh. Mais finalement, tout le monde retrouve de la ressource, et c'est là où c'est
tout
intéressant. Gilles Verviche.
Oui, bonne remarque, c'était pourquoi finalement se sacrifier, pourquoi dire toujours oui. Enfin, on a l'impression qu'on traîne au-delà de notre bonheur ou en deçà une culpabilité qui nous vient à mon avis d'une vieille éducation judéo-chrétienne qui fait qu'on
on
se sent
toujours, hein.
Tout. Ben non, mais quand même c'est ça, parce que la question de fond c'est et pourquoi je devrais être gentil. Il s'agit pas d'être en train de dire qu'on va marcher sur les autres, qu'on va les écraser dans un rapport de domination, mais pourquoi toujours se dire c'est mal de forcément penser à soi, si on doit passer entre deux plutôt qu'à l'autre, pourquoi se sacrifier comme ça? Sinon, parce que on a intériorisé, incorporé depuis 2000 ans une espèce d'idée que il faut pas être mauvais, qu'il faut tendre l'autre joue, etc.
Alors, limite qu'il faut pas être heureux, quoi.
Mais voilà, faut pas être heureux. C'est quand même un genre de discours. Alors ça serait long de développer tout ça, mais qui sert quand même à servir les gens, quoi, hein, les maintenir sous une domination, hein, en leur disant les derniers seront les premiers. Vous inquiétez pas, si votre vie est misérable, plus tard ça vous serez heureux les simples d'esprit. Enfin voilà, on apprend à tout le monde à bien se soumettre. Et pendant ce temps-là, il y a celui en face qui lui profite bien de ce que tu lui donnes et il se pose pas la question.
Mais on est parfois des victimes consentantes, hein, parce que ouais. on est parfois des victimes consentantes parce que c'est toujours un risque à prendre aussi, hein, de penser à son propre bonheur.
Oh,
parce que parfois, on aime bien aussi qu'on nous dise ce qu'on doit faire, comment on doit être heureux.
Ça, c'est l'autonomie. C'est
très confortable
l'autonomie.
Et qu'il y a un moment où effectivement, faut prendre le risque. Hein.
Voilà. Courir le risque d'être soi-même. Voilà, ça demande de l'audace, mais qu'est-ce qu'on y gagne? Merci en tout cas à vous. Marie-Jo, merci beaucoup. C'était super intéressant, c'était clair, net, précis. C'était
merci,
carré.
Voilà, oui.
Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Salut Marie-Jo.
Salut, au revoir, bonne journée.
Hélène Leyer, merci beaucoup. C'était
merci
passionnant. Prenez soin de vous. L'éloge du retard, c'est un livre magnifique aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Gilles Verviche.
Merci.
Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi à lire tous les jours.
Voilà.
C'est aux éditions
en ce moment.
Marion. Voilà. Non, mais c'est un peu dimanche tous les jours en ce moment.
Un jour sans fin.
Ouais, merci à vous parce qu'on a bien commencé la semaine et certains nous expliquent comme Séverine que c'était une bien belle émission. Qu'elle en soit remerciée. Allez, on se retrouve demain dès 14h30 à l'heure des grandes introspections, à l'heure des grands mouvements de notre société. On verra qu'il est possible de se reconvertir à tout âge, mais qu'il faut être quand même bien informé. Vous avez des idées, Gilles Verviche, ou pas?
Vaguement, ouais. Ça m'inspire plein de choses.
Ouais. Allez, vous pourrez venir demain. Prenez soin de vous d'ici là. Je vous embrasse. À demain.